Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons en ligne depuis Melbourne, en Australie, Eric Mwamba. Il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Bonjour Eric Mwamba.
Bonjour Guy Paté.
Dismas Kitenge, il est président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonjour Dismas Kitenge.
Bonjour Guy Maté et bonjour tous les auditeurs de la radio Capi ainsi que mes co-débatteurs au cours de cette émission. Merci.
Merci. En ligne également depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman. Elle est journaliste au journal L'Espoir. Bonjour Madame Colette Blackman.
Ah, bonjour Guy Maté, bonjour tout le monde.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Radio Okapi vous propose un nouveau programme d'enseignement à distance intitulé Pana Okapi Éducation avec les partenariats de l'UNICEF et le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Pana Okapi Éducation est à suivre du lundi au vendredi entre 16h et 17h, heure de Kinshasa, sur la fréquence de la paix. Rediffusion samedi de 9h à 11h, dimanche de 10h à 12h. L'enseignement à distance, à la portée de tous les enfants de la République démocratique du Congo, c'est notre raison d'être. On se retrouve donc du lundi au vendredi entre 16h et 17h pour Pana Okapi Éducation. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Okapi.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Radio Okapi, encore plus près de vous.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation en ligne depuis Melbourne, en Australie, d'Eric Mwamba. Il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme, basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Et en ligne également depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Blackman, elle est journaliste au journal Le Soir. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir déclaration de principe, Human Rights Watch estime qu'il n'y a pas de paix sans justice. Bilan de près de 4 mois de l'occupation de la ville de Goma par les M23, circulation monétaire, sécurité, popularité et diplomatie. Et enfin, le mandat de l'inspecteur général des finances, Julien Linguette, n'a pas eu de résultats probants. Il a révélé la duplicité du discours des politiciens congolais, la propagande et le populisme. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la problématique de la levée ou non des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. En effet, la Chambre haute du Parlement congolais a commencé à examiner depuis jeudi 15 mai 2025 la demande de lever des immunités parlementaires de l'ancien président Joseph Kabila, accusé de collaboration avec la rébellion du M23 dans le but de renverser le pouvoir en place. C'est conformément au réquisitoire de l'auditeur général des forces armées concernant la levée des immunités et les poursuites judiciaires contre Joseph Kabila, sénateur à vie et ancien président de la République. Après lecture du réquisitoire et débat général, la plénière a mis en place une commission technique qui dispose de 72 heures pour examiner en profondeur ces réquisitoires avant de soumettre son rapport au débat à la plénière. La commission aura également le mandat d'auditionner l'incriminé Joseph Kabila qui n'est pas au pays. Cependant, certains analystes et cadres de l'opposition qualifient cette procédure d'illégale car selon eux, le Sénat ne dispose d'aucun pouvoir pour lever les immunités de l'ancien président de la République. Seul le Congrès pourrait les faire sous condition conformément à la loi portant statut des anciens présidents de la République. Et même au sein de la société civile, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer les méthodes utilisées par le régime Tshisekedi, qu'ils accusent de s'en prendre aux opposants et à un ancien président de la République. Ces voix estiment que l'examen de la requête sous la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila risque d'exacerber les divisions et de fragiliser davantage la cohésion nationale. Éric Mwamba, quel est votre point de vue au sujet de cette problématique de la levée ou non des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila?
L'état de droit, c'est aussi la justice. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent que l'interpellation ou soit la poursuite judiciaire de l'ancien président Joseph Kabila pourrait exacerber les divisions au pays, puisqu'on a vu à travers le monde d'autres chefs d'État ou anciens chefs d'État poursuivis. On a vu par exemple au Brésil où Lula, qui était une personnalité très populaire à l'époque, qui a commencé dans le syndicalisme et puis qui a gagné la présidentielle de manière démocratique. Après, il a été poursuivi, jugé, condamné et il a fait la prison. Il a purgé et après la prison, il est revenu, il a encore brigué un mandat, il a encore été élu président de la République. Donc la question d'exacerbation, je suis allé au Brésil pendant que Lula était en prison, la question d'exacerbation des divisions ou des manques de cohésion de l'emprisonnement de Lula n'était pas à l'ordre du jour au Brésil. On a vu dans d'autres pays aussi où la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo était envoyé à la CPI, il a purgé sans que cette question ne se pose. Il est de retour, il se bat encore. Il y a plusieurs cas, il y a Nicolas Sarkozy en France, même sur le continent africain, il y a plusieurs cas. Il y a Charles Taylor qui est à la CPI. Donc moi je pense que si la procédure d'interpellation ou de mise en examen ou de poursuite de l'ancien président Joseph Kabila n'est pas respectée, la justice prévoit des mécanismes où la défense pourrait démontrer que la procédure pour juger l'ancien président n'est pas respectée. Je ne pense pas que ouvrir un procès ou mettre en examen l'ancien président de la République est un problème en soi. Ce qu'il faut faire, c'est pour le président de la République, l'ancien président de la République plutôt, c'est d'aller en justice, démontrer que c'est un démocrate, démontrer que les faits qu'on lui reproche ne sont pas fondés et que le régime essaye d'instrumentaliser. Il faut que l'ancien président, qui est protégé par une loi spéciale sur la protection des anciens présidents élus, puisse montrer l'exemple. Lui qui a permis l'alternance qu'on a qualifiée de civilisée au pouvoir, il faut qu'il puisse aller en justice, qu'il démontre qu'il ne peut pas faire la rébellion, qu'il ne peut pas prendre les armes contre le pays. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut justifier la prise de position des gens qui disent qu'il y a exacerbation des divisions à cause du fait qu'une personnalité politique soit plutôt interpellée pour la justice.
Merci, Dismas Kitenge. Cette affaire suscite, on les voit, un débat à la fois politique et juridique. Vous, en tant que défenseur des droits humains, c'est quoi votre opinion à ce sujet?
Merci beaucoup. Sur cette affaire de poursuite contre l'ancien président Joseph Kabila, il faut dire que mon opinion se base sur un certain nombre de faits. D'abord, il faut des préalables. Des préalables qui contiennent le fait qu'il faut avoir vraiment des preuves que le président, l'ancien président Joseph Kabila Kabangé, est réellement impliqué, est en connivence avec le M23, le mouvement rebelle. Ça, c'est le premier préalable. À mon avis, le deuxième préalable, c'est la question de la justice congolaise, qui doit être une justice indépendante et crédible. Or, à l'heure actuelle, tel qu'on voit les choses, la justice congolaise n'inspire pas beaucoup confiance. N'inspire pas confiance non seulement aux Congolais, mais aussi à la communauté internationale. C'est une justice qui ne respecte pas tous les standards d'un procès équitable. C'est une justice qui est dépendante du pouvoir politique. Et nous ne voudrions pas, pour les cas de Joseph Kabila, que cette justice-là soit une justice, comme on dit, aux ordres du pouvoir. Puisqu'on a vu avant que la rumeur, là, puisque ça reste jusqu'à présent une rumeur, hein, selon laquelle l'ancien président Kabila aurait été vu à Goma. Mais même le gouvernement ne montre pas, ne prouve pas avec des éléments palpables qu'il a été là. Et faut-il encore, s'il est là à Goma, est-ce que c'est s'il a été à Goma, c'est ça qui justifie qu'il est réellement en connivence avec l'M23. Troisième préalable, aujourd'hui dans le contexte où nous sommes, où le président Tshisekedi, les gouvernements ont tous accepté de négocier avec l'M23. Aujourd'hui, faire encore la poursuite à une personne soupçonnée, j'ai dit soupçonnée, d'être en connivence avec l'M23 paraîtrait une démarche paradoxale. D'un côté, on négocie avec le même mouvement, de l'autre côté, on poursuit les personnes supposées être avec ce gouvernement, au lieu de poursuivre les responsables, les premiers du M23, qui sont connus et avec lesquels le gouvernement discute. C'est une démarche tout à fait contradictoire et qui ne rassure personne. Et enfin, comme je disais, il y a des préalables là de s'assurer. Il y a encore d'autres préalables, c'est qu'il faut respecter les conditions de forme et de fond.
Merci.
Pour la poursuite d'un ancien chef de l'État. Donc voilà, toutes ces conditions-là. Il faut donc qu'on n'aille pas précipitamment à ces dossiers pour se faire ridiculiser, pour dire que le procès a été politique. Il faut quitter les terrains politiques pour être sur le terrain juridique. Et le terrain juridique demande une analyse rigoureuse de la situation.
Merci.
Un respect de toutes les procédures. Et aujourd'hui, ce qui paraîtrait aussi, laissez-moi juste une seconde pour terminer, aussi est drôle, puisque comment aujourd'hui on peut contacter l'ancien président Kabila qui est à l'étranger. Il faut aussi, dans le préalable, créer les conditions pour lesquelles tous les opposants politiques, y compris l'ancien président, peuvent rentrer pour affronter la justice du pays et montrer que cette justice sera vraiment indépendante. Si toutes ces conditions-là ne seront pas réunies et qu'on fasse un procès, entre guillemets, bidon, qui conclurait à la condamnation par défaut, ça ne donnera pas un crédit. Ce serait encore comme tous ceux qui sont poursuivis dans l'affaire Nanga. Donc ce serait comme un règlement de compte.
Merci.
Donc il faut s'assurer vraiment du respect de tous les préalables et de toutes les conditions de forme et de fond pour la poursuite, puisque la loi doit être rigoureusement respectée. En plus de la loi, permettre qu'il y ait une décrispation qui permettrait que le président, l'ancien président et tous les opposants rentrent au pays pour faire face à cette justice, plutôt que de les condamner à l'extérieur. Ce serait vu comme une façon de les isoler et d'encourager qu'ils soient à l'extérieur pour ne pas venir exercer le droit politique qui leur sont reconnus.
Merci. Madame Colette Lachman, à votre avis, quel serait l'enjeu de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait autour de ces dossiers et Joseph Kabila?
Mais j'ai l'impression qu'il y a, surtout le non-dit, c'est que l'ancien président Kabila est soupçonné de connivence avec les adversaires du régime, avec peut-être avec le Rwanda, avec le M23. Allez savoir, mais tout ça, il faut le démontrer, il faut des preuves, il faut des éléments. Jusqu'à présent, on a rien vu à part les soupçons. Et donc, au total, c'est plus un aveu de faiblesse de la part du régime qui est en place, qui doit terminer son mandat dans de bonnes conditions, et qui fait aveu d'une certaine crainte, de peur, de faiblesse, alors qu'objectivement, il n'aurait pas de raison, alors qu'en plus, il vient de remporter un succès diplomatique dans les discussions avec le président américain. Il devrait plutôt être bien assis et sûr de son bon droit au lieu de faire un aveu de faiblesse. Et donc je trouve ça assez regrettable.
Merci. On prend une petite pause en écoutant la vérité des Franco Lombo Machiadi. On se retrouve juste après.
Na boinde ko samba epaya pasusu ponga na lingaka yo mingyo yo moko yebi poninyo na boinde bayeba na boinde bayeba na boinde bayeba epaya na bino poyo lingaka ngai mingyo Bakoyeba mobali yango Nalingi de na lingi nde bendifa epa ina na bandeko ponga na teki saka yo bingyo noki bako yeba la moro nanga ko telefone teo ko telefone teo ko telefone teo noki bako yeba ponga na bimaka nde bingyo noki bako tuna kaina teo
C'était La vérité des Franco, une composition de Franco Luambo Makiadi dont le 36e anniversaire de la mort sera commémoré le 12 octobre prochain. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Human Rights Watch estime que la justice est vitale pour une paix durable dans la région des Grands Lacs en Afrique et qu'il est essentiel que les négociations de paix RDC-Rwanda incluent l'obligation de rendre des comptes pour les violations graves des droits humains. Les efforts déployés par les États-Unis pour mettre fin au conflit armé actuel dans la région africaine des Grands Lacs semblent ignorer un facteur clé des hostilités, l'incapacité historique des autorités de la région à les responsables des atrocités commises dans l'est de la République démocratique du Congo, écrit l'ONG sur son site. En ce qui concerne ces problèmes des Américains et les minéraux de la RDC, selon Human Rights Watch, si ces engagements sont sincères, il pourrait s'agir d'une étape importante, étant donné que les États qui soutiennent les groupes armés responsables d'exactions facilitent eux-mêmes la commission des crimes de guerre. Le conseiller spécial pour l'Afrique à la Maison-Blanche, Massad Boulos, a également précisé que tout accord de paix sera accompagné d'un accord sur les minéraux, permettant ainsi aux entreprises américaines et multinationales d'investir dans les mines et les projets d'infrastructures au Congo. Étant donné que la concurrence pour les ressources entraîne des violations des droits humains dans les régions riches en minéraux en RDC, selon Human Rights Watch, il est impératif que les liens entre les conflits, les abus, la corruption et l'exploitation des ressources soient correctement pris en compte. Dismas Kitenge, vous êtes président du Double Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Vous avez souhaité nous parler de cette affirmation de Human Rights Watch qui estime qu'il est essentiel que les négociations des paix RDC-Rwanda incluent l'obligation de rendre des comptes pour les violations graves des droits de l'homme. On vous écoute.
Oui, merci Guy, merci tout le monde qui me suit. Et effectivement, ce sujet est très important, puisque c'est l'oubli de tout le processus de paix. Quand nous sommes dans le processus de paix de Washington, qui est piloté par les États-Unis, on voit que la place des victimes n'est pas accordée. C'est seulement les intérêts économiques. Et peut-être aussi un peu les intérêts politiques. Les intérêts économiques qui sont placés au premier point, puisque les États-Unis veulent avoir le minerai de la RDC, qui lui sont déjà presque donnés très gratuitement par le fait que la RDC veut donc la paix et la sécurité en échange des minerais, dans le minerai. Mais c'est une approche qui n'est pas globale de la situation. Donc les populations qui sont victimes des nombreux massacres qui sont commis par toutes les parties au conflit, tous les belligérants, qu'il s'agisse de mouvements rebelles du Rwanda, qu'il s'agisse aussi de la RDC avec ses milices. Donc toutes les parties ont commis des graves crimes, des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les violences sexuelles, l'utilisation des enfants, et tout ça, les populations veulent que la lutte contre l'impunité des graves violations figure dans les accords de paix. et que ça soit une partie importante de ces accords. Qu'on dise hein, que dans tous ces accords, que ce soit les processus de Washington comme les processus de Doha, qu'on dise que les crimes internationaux les plus graves, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides, ne pourront jamais être amnistiés. Il y a des petites violations aux droits humains. Quelqu'un a volé la poule, il a volé la chèvre. Ça, on peut excuser. Mais quand on a tué des gens, on peut pas excuser. Et pour dire aussi que sans une justice véritable, indépendante, efficace, on ne peut pas avoir une paix durable. La paix qu'on peut avoir en échange d'intérêts économiques, c'est une paix précaire qui peut nous amener encore à la résurgence des conflits qui vont nous conduire à des graves violations des droits humains. Voilà l'importance de parler de ça.
Oui,
et de dire qu'une véritable paix doit être assise sur la justice.
Voilà, oui. comme dans ces processus, la contrepartie de tout accord de paix sera un accord sur les minerais, ça a été rappelé ici par Massad Boulos. Sera-t-il possible d'inclure les questions des droits humains quand on sait que c'est beaucoup plus la question des business qui prime et que de l'autre côté, cette question des droits humains pourrait embarrasser l'une des parties à ces négociations, le Rwanda?
Bon, il n'y a pas que le Rwanda que la question des droits humains peut embarrasser. Il y a aussi les Congolais. Hein. Il y a certes le Rwanda avec son armée qui a commis des graves violations aux droits humains et du droit international humanitaire. Mais il y a aussi les Congolais qui sont là. Les Congolais de tous côtés. Les Congolais du M23, de l'AFC, les Congolais du gouvernement et de Wazalendo. Tous sont en train de se battre et ils commettent toutes les parties au conflit. Mais il faut dire ça aux Congolais et à toutes les parties que la justice n'est pas contraire à la paix. Une justice accompagne la paix. Pour que la paix soit durable, il faut que les gens qui se sont sentis brisés dans leur cœur, dans leur chair, ceux qui ont perdu le leur, ceux qui ont souffert de ces graves, c'est les populations qui sont en majorité les victimes des atrocités graves commises par toutes les parties, le Rwanda ainsi de suite. Hein. Et que si les États-Unis veulent venir aussi exploiter les minerais en échange de donner la paix et la sécurité, pour qu'on parle d'une paix véritable et durable, il faut que cette paix soit assise hein, sur la justice. Puisque si on impose une paix sans que les gens on exprime, sans qu'on ait l'expression des besoins des personnes qui reposent aujourd'hui sur la lutte contre l'impunité, puisque l'impunité est à la base de la commission, de la répétition, de la récurrence de ces violations graves des droits humains, non seulement en RDC, mais dans la région des Grands Lacs. Alors, pour mettre fin à ça, il faut que les auteurs répondent de leurs actes, soient poursuivis. Et les États-Unis, qui sont un pays aujourd'hui perçu dans le monde comme un pays de respect des droits humains, un pays de justice, hein, il faut que tout ce mécanisme soit assis sur la justice. Puisque même si on vient prendre le minerai de la RDC, l'exploiter et dire que nous allons gagner, mais si cette exploitation n'est pas assise sur une sécurité juridique hein, qui va permettre à ce que cette exploitation n'engendre pas non plus d'autres violations des droits humains, c'est-à-dire les personnes qui vont travailler dans les mines, il faut que leurs droits aussi soient respectés. Donc il faut que ça soit accompagné et encadré, cet investissement économique au nom de la paix et de la sécurité, soit encadré par le respect des droits humains. Sinon, l'argent qu'on va donner sans respect des droits humains contribuera encore à aggraver la violation des droits humains, merci, à créer d'autres victimes. Et plus on a des victimes qui n'ont pas trouvé solution, qui n'ont ni droit à la justice, ni à la réparation, ils vont encore prendre de nouveau les armes. Ce merci sera encore une répétition. Donc merci, il faut décourager tous ceux qui prennent les armes pour arriver à l'exploitation des richesses ou pour arriver au pouvoir.
Merci, Madame Colette Fatman. Vous êtes journaliste au journal Le Soir. Dans ces processus, comment peut-on concilier les impératifs de la croissance économique et la nécessité de combattre l'impunité?
Ben, je crois qu'il faut vraiment, faire les deux, parce que sinon la croissance, elle sera construite sur l'injustice, sur la spoliation. On ne peut pas imaginer faire conclure une paix durable avec une exploitation durable et respectable avec la situation actuellement dans l'est du Congo. Le sacrifice de l'est du Congo avec 1 million de personnes déplacées qui ont été spoliés de leur domicile, chassés des camps, chassés de chez elles, en errant sur les collines, privées de soins médicaux, on ne peut pas construire un accord économique viable avec un tel désastre humain, ça n'est pas possible. Donc là, je crois qu'il y a une urgence humanitaire qui est au moins bien plus urgente encore que l'urgence économique et que le désir des Américains, que l'on connaît, qui n'est pas du tout un secret, de tailler des croupières à la Chine, de s'approprier, les voies d'exportation des minerais stratégiques, de dribbler la Chine en incitant le Congo à vendre aux États-Unis par la voie atlantique via le corridor de l'Obito et d'autres moyens de sortie, à céder aux États-Unis les minerais stratégiques du Congo. On peut comprendre cet impératif, mais il n'est pas respectable et il ne sera pas durable non plus si on ne respecte pas le droit des Congolais. Sinon, on retourne au 19e siècle, à la période de l'esclavage et où la population n'avait aucun droit et on sait ce que ça signifiait, quoi. Voilà.
Merci Eric Mwamba, fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Finalement, ce sont les victimes de ces exactions, n'est-ce pas, qui à certains égards pourraient être les dindons de la farce de ces négociations si celles-ci ne tiennent pas compte de cet aspect des droits humains.
Effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont démontré, le problème c'est en RDC, c'est au niveau de la racine, puisqu'il s'agisse de toutes les guerres dites d'agression ou même des violations des droits de l'homme graves au niveau interne, telles que Bondoudia Congo, Kamuina Nsapu, on n'a jamais pris en compte les victimes. C'est-à-dire que les négociations se terminent par le partage de postes dans les gouvernements, dans les institutions de l'État et les intérêts économiques. Et le problème, c'est tant qu'on ne va pas refuser de manière catégorique et qu'on va ériger en principe le fait qu'il faut bannir la barbarie, il faut bannir le terrorisme, il faut bannir le fait de recourir aux armes comme mode d'agression, au poste des responsabilités ou des contraintes pour faire des négociations, ce que les politiciens congolais appellent des dialogues, afin d'accéder aux institutions, aux responsabilités politiques, tout part de là. Tant qu'on n'a pas refusé ces principes, puisque j'entends encore des gens qui justifient, qui interprètent mal l'article 64 de la Constitution, qu'il y a des gens qui ont le droit de recourir aux armes avec le soutien des pays voisins pour, mais quand on fait la guerre, mais la conséquence, c'est qu'il y aura des violations des droits de l'homme que M. Kitenge, grave que M. Kitenge est en train de dénoncer en tant qu'expert en matière de défense des droits de l'homme. Le fait, c'est de refuser qu'il y ait la guerre et on n'a pas eu d'initiative du genre réconciliation, commission vérité, justice, réconciliation et paix telle que ce qu'on a connu en Afrique du Sud après l'apartheid. On n'a pas eu ce genre d'initiative en RDC. Et tant qu'on n'aura pas ce genre d'initiative, les victimes ne seront jamais prises en considération.
Merci, chers auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le 5 mai dernier, c'était l'anniversaire de naissance de Reddy Amissi, alias Bailo Kanto. Reddy Amissi, cet artiste et auteur, compositeur et chanteur congolais qui a évolué dans l'orchestre Viva la Musique de Papa Wemba et qui, depuis quelques années, tient son propre orchestre, la Casa do Canto. À l'occasion donc de cet anniversaire, on va écouter l'une de ses classiques intitulée Mbongwana Yagi et on revient juste après.
Na nyama bongo le lingayo molema na sala
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la problématique de la levée des immunités ou non de l'ancien président Joseph Kabila. Nous avons également analysé la recommandation de Human Rights Watch qui souhaite que les négociations de paix RDC-Rwanda puissent inclure l'obligation de rendre des comptes pour les violations graves des droits de l'homme. Participe à cette émission en ligne depuis Melbourne en Australie. Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Dismas Kitenge, il est président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Et en ligne également depuis Bruxelles, la capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann, elle est journaliste au journal Le Soir. Au Nord Kivu, les opérations de bouclage clôturées en début de cette semaine dans la ville de Goma et environ continuent de susciter des polémiques. Dans un communiqué officiel rendu public mardi 14 mai à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur parle d'une violation des droits humains. Alors que le mouvement AFC-M23 affirme avoir interpellé près de 300 personnes entre le 10 et le 13 mai, Jacques Chabani dresse plutôt un bilan de plus de 4000 personnes enlevées. Au sujet de la criminalité, il est rapporté que le niveau de criminalité demeure inquiétant et alarmant dans la ville de Goma. Au moins 30 personnes ont été tuées au cours de ces deux dernières semaines, soit du 25 avril au 10 mai lors d'actes criminels. Le plus récent cas est l'assassinat la nuit de jeudi à vendredi d'un chef d'avenue et d'un chef de 10 maisons dans les quartiers Mugunga à l'ouest de la ville. Ceci ressort d'un rapport publié récemment par les conseils communaux de la jeunesse des communes de Goma et de Karisimbi. Des présumés M23, des évadés de la prison de Munzenze et certains Wazalendo qui ne désarment pas sont cités. Par ailleurs, un mois après la reprise des activités bancaires de la Caisse Générale d'Épargne du Congo, Kadeko à Goma, au Nord Kivu, par les rebelles du M23, l'institution se heurte à plusieurs difficultés selon des experts en économie locale. Cette relance visait à rétablir un circuit financier autonome dans une ville où les banques et autres institutions de microfinance sont fermées depuis janvier 2025. Cependant, plusieurs défis ont été identifiés depuis la réouverture. Selon des experts économiques de la région, l'absence des codes SWIFT constitue un premier obstacle. Ces codes indispensables pour les transactions internationales fait défaut à la Kadeko, limitant ainsi sa capacité à fonctionner comme une banque conventionnelle. Une autre difficulté majeure est le manque de confiance de la population. Bien que la réouverture de la Kadeko à Goma ait été initialement bien accueillie, la population exprime des doutes quant à sa fiabilité. Madame Colette Bachmann, vous avez souhaité nous parler du bilan de près de 4 mois de l'occupation de la ville de Goma par les M23, circulation monétaire, sécurité, popularité et diplomatie. On vous écoute.
Oui, mais vous l'avez dit, la situation reste très, très incertaine parce que je pense que le M23 peine à assurer sa légitimité dans les zones où il se trouve. Ce que vous avez dit, 4000 personnes arrêtées, 107 assassinats avérés au cours des derniers jours montrent qu'ils essayent de rétablir l'ordre, mais d'une façon extrêmement brutale et autoritaire, et qu'on est loin d'avoir guéri, si vous voulez, les blessures, les dégâts des premiers jours d'affrontement lorsqu'on a ouvert la prison de Muzenze, que des centaines, des milliers de détenus se sont évaporés dans la ville, mais sans moyens de subsistance. Donc évidemment, ils créent l'insécurité, ils s'attaquent aux civils. Mais il y a aussi la brutalité, disons, des malfaiteurs, mais il y a aussi la brutalité des nouveaux maîtres. Moi, j'ai été témoin de cela. Lorsque 1 million de personnes ont été chassées des camps de déplacés qui se trouvaient autour de Goma et ailleurs, et obligés à la pointe du fusil de rentrer chez eux sans moyen de locomotion, sans moyen de subsistance, de rentrer vers le village d'origine, c'est d'une extrême violence à l'égard des civils. Et ce qui est violent aussi, c'est qu'à l'arrivée, les maisons, les champs étaient occupés par d'autres. Et donc ça, c'est évidemment une graine de violence et d'antagonisme entre les anciens qui reviennent chez eux, les nouveaux qui sont installés, qui ne veulent pas partir. Et donc, il y a eu une très très grande insécurité et un malaise, et tout ça génère un manque de légitimité à l'encontre du mouvement M23, qui est peut-être reconnu comme légitime par certains Tutsis congolais, et encore pas pour tout le monde, des Tutsis congolais qui se trouvaient au Rwanda, qui espèrent maintenant pouvoir retourner dans les régions dont ils étaient partis il y a 20 ans, 30 ans, au cours des trois dernières décennies, mais qui vont se heurter à une hostilité des populations locales, même si on peut comprendre. Tout ça, ça peut se régler par la négociation, la discussion, mais pour le moment, on le règle par la violence et la brutalité. C'est très préoccupant. Il y a aussi la situation sanitaire. Il suffit de lire tous les rapports de Médecins Sans Frontières, de Médecins du Monde. On vient chercher des malades sur leur lit d'hôpital. On tue des gens dans l'enceinte des hôpitaux. Il y a absence de médicaments. Il y a certains aspects où ça ressemble à Gaza. Là, ce qui se passe au Kivu. Sauf qu'on n'en parle pas. Gaza, tous les jours, vous avez des rapports et des protestations. La brutalité, le désastre sanitaire au Nord Kivu, il est très difficile qu'on en parle. Et pourtant, les ONG le disent. Elles sont à court de médicaments. La fermeture des centres USAID qui dispensaient quand même une aide indispensable et qui ont dû fermer a des conséquences dramatiques pour la population. Donc il y a une crise humanitaire, une crise psychologique, une crise de confiance. Il est certain que le M23 le paye par un manque de légitimité, mais que les gens n'ont pas nécessairement plus confiance dans les autorités de Kinshasa. Par contre, il y a un grand sentiment national, un sentiment d'appartenance à l'ensemble congolais qui est manifeste, mais qui ne se traduit pas par une allégeance politique, si vous voulez, parce que sur le plan politique, il y a tout de même eu des erreurs, des carences. Tout le monde a vu que l'armée n'était pas payée, que les soldats étaient découragés parce que les soldes n'arrivaient pas, qu'ils avaient beaucoup d'armement, mais d'autres choses, que le commandement était déficient. Et donc, il y a une déception à l'égard du pouvoir politique, il y a un fossé, et personnellement, je ne crois pas que l'autorité politique de l'Alliance Fleuve Congo pourra remplir ce fossé. J'ai pas l'impression que l'AFC qui descend vers le sud va aller beaucoup plus loin que, si elle y arrive, que Uvira et que la frontière du sud Kivu, parce qu'il y a une résistance populaire. Il y a, comme dans la première guerre, la deuxième guerre, la troisième guerre du Congo, il y a une résistance des populations à se laisser envahir, à se laisser conquérir. Même s'il n'y a pas une confiance immense dans le pouvoir central, il y a une volonté d'appartenance congolaise qui est manifeste de la part de la population et qui génère déjà aujourd'hui des actes de résistance, résistance qui pourrait se traduire demain par des soulèvements, par des actions qui pourraient surprendre. Donc il est urgent de conclure la paix, sinon les déchirements vont se poursuivre encore plus dramatiquement qu'aujourd'hui, et tout ça dans un silence relatif de la communauté internationale qui maintenant a les yeux fixés sur le deal entre le pouvoir Tshisekedi et Donald Trump. Mais à mon avis, les enjeux sont bien au-delà de l'enjeu des minerais. Et je pense qu'il y va aussi de la pérennité du régime rwandais lui-même, qui s'est avancé sur un terrain extrêmement dangereux et peut-être au-delà de ce qu'il peut maîtriser lui-même.
Merci. Eric Mwamba, vous avez suivi Madame Colette Markman qui affirme que l'M23 AFC peine à assumer sa légitimité dans les zones qu'il contrôle depuis environ 4 mois. Et à votre avis, si cette situation perdure, on peut s'attendre à quoi?
Oui, effectivement, Colette Barkman, que je salue, que j'ai rencontré lorsqu'on visitait le laboratoire à l'université de Lubumbashi, a effectivement raison, puisque les personnes avec lesquelles nous parlons tous les jours, que ce soit au nord ou au sud Kivu, témoignent de ces faits qui sont documentés. Le modus operandi du M23 ressemble un peu à ce qui s'est passé lors de la première guerre de l'AFDEL. Il y a des personnes, par exemple, avec lesquelles nous avons parlé, qui nous ont fait part des habitants qui avaient peur que leur véhicule ne soit extorqué par les éléments du M23, qui ont caché leur véhicule dans des hôpitaux, puisqu'ils considéraient que les hôpitaux sont quand même des sites inviolables, mais contre toute attente, les éléments de M23 ont fait incursion dans des hôpitaux par exemple, la nuit du 2, du 4 et du 11 avril, par exemple, ils ont fait incursion, ils ont tiré à balles réelles, ils ont menacé les malades et les personnels soignants, ils ont récupéré les véhicules et tous ces véhicules sont envoyés au Rwanda. Il y a des cas de tuerie tous les jours, par exemple d'un jeune à Bukavu qui rentrait d'une activité le soir et qui a été trouvé mort la journée. Il y a des actes comme ça de tuerie presque tous les jours, donc l'insécurité et le lot quotidien des habitants, que ce soit du sud Kivu ou du nord Kivu, des territoires occupés par les M23. Donc, comme Colette Bachmann l'a dit, la légitimité venant d'action, je pense que les M23, là, auront du mal à conquérir les cœurs des populations des territoires qu'ils occupent.
Merci, Dispas Kitenge. Le M23HC occupe la ville de Goma depuis environ 4 mois et de Bukavu depuis environ 3 mois, avec toutes les difficultés, n'est-ce pas, que ce mouvement rebelle connaît pour essayer d'administrer cette ville. À votre avis, quelles leçons peut-on tirer de cette situation?
La première leçon, c'est que la violence est imposée au peuple de la RDC, et particulièrement celui de Goma et de Bukavu. Et cette violence-là s'est traduite dans plusieurs secteurs. Il y a les secteurs politiques d'abord, où on acquiert le pouvoir par la force. Ce n'est plus la volonté du peuple qui est prise en compte. Et la violence économique, hein, donc on lui impose des conditions de vie intenables, inhumaines. C'est exactement cette situation que vivent nos compatriotes de Goma et de Bukavu, en général du Nord Kivu et du Sud Kivu. Troisièmement, il y a aussi la violence sociale. La violence sociale, on leur ravit leur terre, on leur impose de vivre avec d'autres populations. Voilà, donc, et enfin, c'est aussi cette violence étatique, hein, c'est-à-dire un autre État, en l'occurrence le Rwanda, qui impose au Congo sa volonté. Donc, c'est une situation grave et intenable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La leçon aussi, c'est que la communauté internationale, pour le cas de la RDC, particulièrement pour celle du Nord et du Sud Kivu, joue un jeu de deux poids, deux mesures. Hein. C'est-à-dire, s'il s'agit de notre État, la communauté internationale est plus active. Hein. On voit la communauté internationale en Ukraine faire beaucoup de choses. On voit la communauté internationale à Gaza faire des choses. Donc la leçon aussi, c'est que la communauté internationale ne ferait pas beaucoup. La leçon aussi, c'est que la démocratie congolaise est encore une démocratie précaire. La démocratie n'existe pas. Puisque quand on voit la situation qui se passe à l'ouest comme à l'est, c'est aussi un déficit démocratique. C'est aussi un déficit de gouvernance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Après avoir tiré toutes ces leçons-là, la première chose à faire, c'est que les Congolais doivent être sérieux et responsables. Et puisque cette crise de l'Est du Congo, du Nord et du Sud, c'est aussi une crise congolaise, humaine congolaise. C'est-à-dire les hommes et les femmes congolais ne croient pas à leurs institutions. Il n'y a pas que la population de l'Est qui ça, mais à l'Ouest aussi c'est pareil. Donc c'est une crise congolaise d'abord, ensuite c'est une crise aussi internationale, mais qui n'est pas suffisamment valorisée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, les pistes suivantes, un, c'est pousser les Congolais à être sérieux, à dire jamais la violence, jamais toutes les crises. Il peut y avoir des problèmes, mais on doit choisir les voies pacifique pour régler. Deuxième piste, c'est dire qu'il y a une irresponsabilité de la classe politique congolaise, de tous côtés, au pouvoir comme opposition, et le peuple doit se prendre à charge pour choisir aussi d'autres voies, d'autres personnes qui peuvent incarner une vision humaine, une vision réaliste, une vision de paix et de développement. Autre solution aussi, c'est de pousser la communauté internationale, puisqu'on a vu avec cette crise, hein, parmi les leçons, c'est seuls les intérêts des États qui comptent et seuls les intérêts des multinationales qui comptent. Alors là, il faut pousser la communauté internationale à aider, puisque aujourd'hui, la population du Nord et Sud Kivu est étouffée. C'est une population étouffée, écrasée, qui risque de disparaître si on ne fait pas attention.
Merci.
Alors la communauté internationale a le devoir d'ingérence. Il faut la pousser à intervenir pour sauver ces populations qui sont en détresse.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Tuko Mubinini avec Graciaka Malaika et on se retrouve juste après. Mubinini de Graciaka Malaika. Je rappelle que nous avons dans cette émission en ligne depuis Melbourne, en Australie, Eric Mwamba, il est fondateur et responsable du magazine Grand Journal Intelligent. Dismas Kitenge, il est président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme. Bazia Kisangani, il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Et en ligne également depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Colette Bachmann, elle est journaliste au journal Le Soir. Le président congolais Félix Tshisekedi a nommé mercredi 6 mai par ordonnance présidentielle une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'inspection générale des finances IGF en sigle. Christophe Obitasimwa Bahi a été désigné inspecteur général des finances en remplacement de Jules Alingeti Kei, tandis que Emmanuel Chibingu Tsenga occupe désormais le poste d'inspecteur adjoint. Pour plusieurs observateurs, le mandat de Jules Alingeti à l'inspection générale des finances a marqué un tournant dans les contrôles des finances publiques et la lutte contre la corruption en RDC. Ces observateurs estiment cependant que l'action de l'ancien patron de l'IGF a eu un impact initial positif. Malheureusement, elle a également révélé des limites importantes qui ont freiné son efficacité. C'est notamment un manque d'indépendance dans la conduite des enquêtes. Eric Mwamba, vous avez choisi de nous parler du mandat de l'inspecteur général des finances, Jules Alingeti, qui, selon vous, a révélé la duplicité du discours des politiciens congolais, la propagande et le populisme. On vous écoute.
Oui, Guy, il faut d'abord dire que l'inspecteur général des finances a été la star des institutions au cours du premier mandat du président Félix Tshisekedi. Et ce qui montre aussi la préoccupation des peuples congolais de voir la bonne gouvernance et l'assainissement des finances publiques. Alors, le mandat de l'IGF, M. Jules Alingeti, n'a pas, à mon avis, eu des résultats probants. Au contraire, il a révélé la duplicité du discours des politiciens congolais, la propagande et le populisme. Alors, si pour le commun des mortels en RDC, le travail de Jules Alinguete à la tête de l'inspection générale des finances a marqué un tournant dans le contrôle des finances publiques, les initiés retiendront qu'il a en réalité démontré le double langage et la duplicité de l'élite politique congolaise. D'un côté, l'État a fait rêver la population de sa volonté d'instaurer le contrôle des finances publiques et la lutte contre la corruption, en donnant apparemment, j'insiste sur l'adverbe, des moyens à l'IGF, mais de l'autre côté, le parquet et la Cour des comptes végétaient dans la précarité et l'illusion. Loin de toutes les réformes significatives, ces institutions ont été abandonnées à leur triste sort. En clair, le pouvoir savait que l'action de l'IGF n'apporterait aucun résultat tangible dans l'assainissement des finances publiques. L'IGF a également révélé des limites, vous l'avez dit, Guy, puisque dans sa conduite des enquêtes, certains secteurs des institutions publiques qui ont été épinglés, par exemple, par des ONG indépendantes et même par les médias qui font des investigations sur la bonne gouvernance et la corruption en République démocratique du Congo. Bien que ces ONG et ces médias ont épinglé certaines institutions telles que la présidence de la République, par exemple, et certaines provinces, l'IGF n'a pas daigné orienter ses enquêtes vers des institutions. Alors, pendant 5 ans, l'IGF a publié plusieurs rapports d'enquête sur les malversations, mais il n'y a pas eu de procès efficace ni de sanctions contre des dirigeants mis en cause. Le trésor public également n'a pas récupéré de l'argent volé. Le gouvernement a prôné un mythe, donc une sorte de mythe d'un certain état de droit, mais n'a pas instauré la redevabilité comme impératif de bonne gouvernance, de transparence et de vérité dans la gestion des affaires publiques. Et c'est fait. L'État congolais a envoyé un très mauvais signal dans l'opinion, car les sanctions à la suite des procès équitables et transparents devraient servir d'exemplarité pour dissuader les potentiels délinquants. Donc, certes, l'IGF a eu apparemment des moyens pour faire son travail, mais le parquet et d'autres organes qui ont un pouvoir coercitif n'ont pas eu le même soutien de la part du pouvoir. Donc, il n'y a pas eu synchronisation au niveau des organes de l'État chargés de mener des enquêtes, chargés de suivre la gestion des affaires publiques. Alors que tout le monde savait que l'IGF n'a pas ce pouvoir de réprimer les délinquants, on peut déduire que ces rapports se sont soldés par un constat symbolique, car ils étaient tout simplement consultatifs. Donc ce double langage de l'État ressemble à une sorte de populisme et pourquoi pas d'omerta. Par ailleurs, pour finir, selon des informations en cours de vérification, ça c'est très important, Guy, la plupart des dirigeants politiques, y compris au sein de l'inspection générale des finances elle-même, ne payent pas leurs impôts. Ça c'est très grave. Si jamais ces informations venaient d'être confirmées, dans un pays où l'essentiel des recettes sont censées provenir de l'assiette fiscale, l'IGF n'a pas publié de rapport, par exemple, sur l'état de paiement d'impôts par les dirigeants. D'ailleurs, pour corroborer ces faits, le président de la République avait déclaré qu'il ignorait le montant de son salaire. Donc, on peut conclure que le président de la République ne paye pas les impôts. Donc, s'il ignore son salaire, donc on peut conclure qu'il ne paye pas ses impôts. Les députés nationaux, tout comme les ministres, gardent jalousement les secrets sur le montant de leur salaire. Et d'ailleurs, c'est le seul sujet, c'est le seul dossier où il y a eu convergence. Donc, les politiciens de l'opposition, tout comme de la majorité, et même l'inspection générale des finances, ont montré une sorte de cohérence, une sorte de solidarité sur la question concernant les rémunérations. Donc, on n'a pas publié les rémunérations des dirigeants, alors qu'il y a un article de la Constitution qui l'est dit. Donc, malgré ces controverses parfois insurmontables qui caractérisent la classe politique congolaise, les secrets sur les salaires des hauts cadres fait partie des rares, si pas le seul dossier sur lequel la majorité au pouvoir, l'opposition et l'IGF ont été d'accord. Comme qui dirait, l'argent n'aime pas le bruit. Pour conclure, dit le travail de l'IGF sans avoir été mis en synchronisation avec d'autres services comme la Cour des comptes. La Cour des comptes, quand vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, la Cour des comptes est considérée comme l'organe suprême de contrôle dans la gestion des affaires publiques en RDC. La Cour des comptes n'a pas eu les moyens. Alors l'argument, on donne, il y a un argument qui est soulevé par le gouvernement en disant qu'on va créer un parquet financier. Par exemple, moi je pense que nous avons un juriste de renom, M. Kitenge, dans cette émission. Je pense que le parquet général actuel est compétent pour conduire l'action pénale dans l'intérêt du peuple congolais.
Merci.
Donc cet argument montre encore qu'il s'agit du populisme et de la manipulation.
Merci, Madame Colette Batman. Il est dit dans ces pays que tout est politisé. Est-ce que finalement ce ne sont pas les intérêts politiques qui ont conditionné le travail de l'ancien inspecteur de l'inspection générale des finances et qui ne lui ont pas permis, n'est-ce pas, d'accomplir sa mission comme il se doit?
Oui, c'est l'impression que j'ai parce que je l'ai rencontré au début de son mandat. Il me paraissait un homme vraiment énergique, de bonne volonté, bien décidé à balayer, mais il n'a pas pu balayer dans tous les coins et il n'avait pas les instruments pour ramasser la poussière et pour aller au bout des choses et pour sanctionner. Et donc c'est à la fois un homme compétent et de bonne volonté, mais il a été paralysé par la politique, par ceux-là même qu'il aurait dû avoir la capacité de poursuivre ou de mettre devant leurs responsabilités. Donc c'est certainement un exercice utile, mais incomplet, et qui finalement, avec le recul aujourd'hui, avec beaucoup de déception, je suppose que beaucoup de gens partagent ce sentiment, on a l'impression que c'était un effet d'annonce, montrer qu'on est intransigeant, mais sans aller jusqu'au bout et sans frapper vraiment au cœur du système qui reste malheureusement impuni avec toutes les conséquences que ça implique.
Merci, Dispas Kitenge. On va finir cette émission avec vous. Quelles recommandations pourriez-vous formuler pour que la nouvelle équipe qui vient d'être placée à la tête de ces services puisse être en mesure de relever les défis?
Merci beaucoup. Je dis d'abord un petit mot sur les bilans de l'ancienne équipe dirigée par M. Jules Lariguette. Le bilan est mitigé. Il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs. Ça a été repris par mes prédécesseurs. Alors, à ce qui concerne les recommandations. Un, nous savons que l'Inspection Générale des Finances fait partie de la présidence. Il faudrait que l'Inspection Générale des Finances ait une autonomie, une certaine autonomie, tout en dépendant de la présidence, puisse avoir une certaine autonomie de fonctionnement. Ce qui a caractérisé les difficultés que cette inspection a eues, du fait qu'elle est trop dépendante de la présidence de la République. Donc avoir une certaine autonomie. Deuxièmement, avoir des personnes qui sont aussi indépendantes, d'esprit et crédibles, puisque le problème, c'est que l'Inspection générale des finances est trop politisée. Hein, la plupart de tous ceux qui sont nommés là sont des fonctionnaires et sachant comment notre pays fonctionne, on veut toujours que l'administration soit politisée et que tous ces gens-là fassent une allégeance dans ce que les Congolais appellent la loyauté. Qu'on arrête de mettre de tels concepts qui poussent les gens à ne pas être indépendants. Donc, il faut que les gens puissent être recrutés sur base de compétences, sur base d'intégrité, et non pas sur base d'allégeance politique, qu'on doit être près du président de la République. Mais ce sont des experts, des gens, des fonctionnaires de l'État, qui doivent être dans une certaine impartialité. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, il faut qu'on dote cette Inspection générale des finances des moyens financiers importants, n'est pas le bloquer. Qu'on dégage le budget connu à l'avance de l'Inspection générale de finances, qu'il ait le moyen financier de faire. Et quatrièmement, qu'il y ait aussi des audits sur l'Inspection générale de finances. Les audits qui doivent venir, par exemple, des missions parlementaires, il faut des commissions parlementaires qui auditent l'Inspection générale de finances. Il y a aussi la Cour de compte, puisque la Cour de compte a la primauté sur l'Inspection générale des finances. La Cour des comptes, elle, vient d'une loi, alors que l'Inspection générale des finances dépend de la présidence. Et on sait que pour dépendre de la présidence chez nous et travailler bien, entre guillemets, il faut être politiquement intégré. Alors, qu'il y ait des contrôles, autre chose aussi, qu'il y ait des critères, des personnes qui doivent travailler à l'Inspection générale des finances. que ce soit basé sur la compétence et sur l'intégrité. Et que le rapport de l'IGF, soit un rapport qui ne soit pas seulement adressé au président de la République, mais soit adressé également au Parlement, donc les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, soit aussi adressé à la justice, soit aussi adressé au gouvernement dans son ensemble, soit adressé aussi à d'autres acteurs, soit accessible, par exemple, sur le site,
merci,
où tout le monde, la société civile aussi, peut consulter. Donc, c'est un certain nombre de choses, et il faut aussi le contrôle citoyen, que le travail de l'Inspection générale des finances soit suivi par l'ensemble de la société civile et l'ensemble de tous les citoyens du monde, avec un site où on peut poster les rapports et où les gens peuvent poser des questions, et que l'Inspection générale puisse avoir être aussi décentralisée.
Merci.
Nous qui vivons, par exemple, dans les provinces, il n'y a pas de cellule d'Inspection générale dans les provinces. Voilà un certain nombre de recommandations.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Colette Bachmann, Monsieur Dismas Kitenge, Monsieur Eric Mwamba. Merci aussi à Paul Bagayama qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec profiter cette autre composition des Reddy Amissi alias les Bailli de Canto, une façon pour nous, n'est-ce pas, de continuer à célébrer son anniversaire. Et on se retrouve le samedi prochain.
Profitez, Pêche Rodrigo. Wassa, wassa. Oh, yoka, 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 mongongo, nangeko, belela. Melodia mama na tilili bonza Oyamba yango, oyamba yumaluba moke wana Luxene mosenje Mama na lotina butuna ndoko kiza Tenga inakomi mobange Baye na salisa kaba komi kose kanga Basi na suwaka bako miko so melanga Mousala oyo pasi ezangi nde meleti Yo kandeli kambo ezangi yeyano Chos mondele, adona mwiti Ai ai, oh, lelana yebie Mokala ya kupo nanga banguna bako salanda peti Papa tibanga bako lela bana bako lela papa Ayaya bakole la leki na biso ake Bakola yangwe koza la makambo ma Mama kole la tenga inabota mama bele Yawe ala mama Ika atale engela muatango risen Jano kano yebake mokilo e C'est moi quand on ne vit qu'une seule fois, il faut en profiter. Ma yele ya bomona. Nakimo bangete toko sala ba carrière ngo. Ika to profiter. Okolo yangu ikuzala makambo ma. Mama kole la te yangangonga ekoki. Mi bongi sabato ya mbongi Mbobe maswa Yese ngeli te milengele na bisale Lipona lola Yo moto ya mokili Osui moke, bomba moke Ariari ya moto Peti laka oyeba Mandale tan peti laka Mayali wananga Na boi bana nangaba samba Bayo katonje Na nikapura papa salaka Yeah, yeah, yeah Double one, ma belle, Pachito, Winnetou, oh ma colonne, il n'a pas mis mon bangé.
Mon colonne a promis mon bangé, ma nami,
c'est pour la maman. Le grand monarque.